frustrations. Et je pense qu'il y aura des... même si Garance a dû partir, il y aura des points communs et des différences à mettre en valeur dans vos communications. Peut-être aussi la démarche des archives et comment
tout à fait.
Les archives. Parce que je pense, si je me souviens bien, que là aussi, c'est une quête qui a pu quand même aboutir...
Tout à fait. Et à la différence, de Garance. Moi, je viens aujourd'hui donc, je me présente tout d'abord, je m'appelle Anne-Sophie Lassot et je suis étudiante en Master 2 d'Histoire de l'art à la Sorbonne et j'ai pour directrice Marianne Grivel. Et oui, donc c'est assez génial, je trouve, de pouvoir avoir à la fois une présentation de Martin et de Marty, puisque ce sont deux artistes qui sont restés amis dans la vie, toute leur vie. Ils ont été tous les deux à l'École des Beaux-Arts de Paris et ils ne se sont jamais quittés. Et la différence, c'est que Marty a vécu beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce cher Martin, puisque Marty est né en 82 et il est mort en 1974. Donc il est mort à 82 ans. Et à 83 ans, il faisait encore un dessin animé. Donc vous imaginez, c'était une vie assez intense. Il a fait beaucoup de choses, et dont la mode, l'illustration de mode. Et moi, mon travail, là, j'ai décidé, parce que l'objectif de mes deux ans de master, c'est d'étudier la vie et l'œuvre de Marty dans son intégralité, en respectant sa polyvalence. Mais comme on est ici pour parler de la mode, je vais insister un petit peu sur l'illustration de la mode par Marty, et je vais prendre aussi le temps de vous raconter une de mes plus belles découvertes depuis ces deux ans que je travaille sur Marty, c'est la découverte d'un fonds d'archives familiale inédite, vraiment très intéressant. Donc Marty, comme Martin, fait partie de ces pionniers de ce que l'on appelle le premier art déco ou l'art déco dit des couturiers. Il a en effet on le reconnaît assez facilement. Il a cette caractéristique de ce style d'imaginer des femmes au corps longiligne, avec une silhouette toujours harmonieuse, délicate. Le visage est ovale. Les traits du visage sont encore plus synthétiques. Ce sont parfois que de simples points, quelques traits pour le nez et la bouche. Et le rendu est toujours très harmonieux, très gracieux, jamais vulgaire. Et c'est ça qui va séduire un certain nombre de lectrices dans les revues de mode. Alors, qui est Marty ? Donc, je vous en ai déjà dit, il est né en 1892. Et c'est donc un Parisien qui a passé son enfance et son adolescence à l'école alsacienne de Paris, puisqu'il était le petit-fils du directeur de l'école. Et il n'a pas voulu tout de suite se lancer dans une carrière artistique. Il a déjà passé sa licence de philosophie à la Sorbonne. Et c'est après qu'il va entrer à l'école des Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Fernand Cormon, tout comme Martin. Et c'est là qu'il va rencontrer donc Martin, mais aussi Georges Barbier, Pierre Brissot, il le connaissait d'avant. Il le connaissait déjà de l'école alsacienne, mais il va rencontrer tout un tas d'amis. Et ensemble, ils formeront plus tard le groupe qu'on appelle donc les Chevaliers des Bracelets. Il devient célèbre à partir de 1912 avec sa collaboration à la Gazette du Bon Ton, qui est dirigée par son ami d'enfance Lucien Vogel. Et le succès va lui permettre par la suite d'illustrer, de travailler avec d'autres revues de mode, telles que Vogue, Femina ou encore Le Jardin des Modes. Il y en a beaucoup, et je vais même vous dire, ça fait deux ans que je travaille sur lui, je suis encore incapable de vous donner le nombre exact de revues, que ce soit des revues de mode ou d'autres revues telles que l'illustration, je n'ai aucune idée de la quantité. Mais c'est aussi donc un artiste décorateur et un réalisateur de dessins animés. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez 13 minutes à tuer, vous tapez sur internet Callisto, la petite nymphe de Diane, et vous allez voir un petit film qui dure 13 minutes, assez expérimental. Hein. Il y a beaucoup de qualités et pas mal de défauts, mais c'est tout de même assez amusant à regarder. Et donc, il meurt en 1974. Donc, je reviens donc sur l'illustration de mode. Il débute avec la Gazette du Bon Ton, qui est vraiment je vais reprendre encore Garance, hein, c'est vraiment la revue de luxe par excellence, qui a cette particularité donc d'offrir de très beaux numéros rehaussés au pochoir, et surtout qui a la particularité d'offrir à ses lectrices des planches en hors-texte à la fin, imaginées par des illustrateurs, donc, dont Marty. et qui vont mettre en scène des toilettes imaginées par de grands couturiers tels que Paul Poiret ou Jeanne Paquin ou encore Georges Douillet. Marty, c'est surtout, c'est vraiment le spécialiste d'abord de Georges Douillet puis de Paul Poiret. Mais c'est surtout l'artiste, l'illustrateur le plus prolifique, puisqu'il a réalisé près de 77 illustrations hors texte. Je ne vous mets ici quelques exemples. Je ne pouvais évidemment pas tout mettre, on n'a pas le temps. Mais vous constaterez que le dessin est toujours assez charmant. Il a cette qualité de savoir en quelques traits évoquer une toilette, en gardant l'originalité de son dessin, de son style. Et c'est d'ailleurs, il y a aussi souvent une touche d'humour, et il sait aussi simplifier le décor, donner juste assez d'éléments pour qu'on sache où se passe la scène. Il met en scène les modèles, et c'est ça qui va véritablement plaire. De ce qui fait que finalement, après la disparition de la Gazette du Bon Ton, il va continuer à travailler pour d'autres revues de mode, telles que Vogue. Je vous ai mis d'un côté deux couvertures de Vogue Paris, mais aussi Vogue New York. Et mon travail cette année, ça a été véritablement de dépouiller le plus de revues possible, dont Vogue Paris. Cet été, je vais partir à New York pour essayer de dépouiller le reste, donc Vogue New York. Il a aussi travaillé pour Femina, ainsi que l'illustration des modes qui devient le jardin des modes à partir de 1922. Et je peux vous dire que pour le Femina, tout comme l'illustration de mode, il va réaliser près d'une vingtaine de couvertures à chaque fois, ce qui n'est absolument pas négligeable pour un illustrateur de mode. Ah oui, donc je vous le disais, je n'ai pas pu m'en empêcher, parce que la mode, ça m'intéresse beaucoup, mais ça ne représente qu'une partie de la production de Marty. Donc voilà, il fallait absolument que je vous montre des exemples de travaux qu'il a réalisés comme artiste décorateur, avec notamment le décor du pavillon de Jeanne Paquin à l'exposition de Turin en 1911. Il a fait aussi des décors, des maquettes de décors, et il a imaginé des costumes, hein, tout comme Charles Martin, puisque c'est important. L'illustrateur, il n'y a pas de spécialisation. Hein, à cette période-là, l'illustrateur touche à beaucoup de choses, et donc c'est tout à fait normal qu'on le voit dans des domaines assez variés. Et donc, comme je vous le disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est étudier la vie et l'œuvre de Marty dans son intégralité. Ce qui n'est absolument pas évident, parce que comme Martin, on s'est très peu intéressé à Marty. Il y a quand même eu un livre, hein, dans les années, en 1930. Le seul ouvrage biographique qui existe date de 1930. Il y a eu aussi une exposition rétrospective en 1976, qui aurait pu donner lieu à une étude plus approfondie, ce qui n'est pas le cas, puisque le catalogue va retranscrire un extrait du livre de 1930. Donc, c'est dommage. Il y a eu aussi un mémoire en 2001, mais l'étudiante s'est surtout concentrée sur Marty, illustrateur pour la Gazette du Bon Ton, et force est de constater qu'elle a eu beaucoup de mal parce que les sources biographiques sont très, très, très limitées. Donc, dès mon Master 1, je me suis rendu compte que la seule solution, si je voulais vraiment faire un travail pertinent, c'était tenter quelque chose qui n'est pas évident. C'était d'essayer de retrouver la famille de Marty et espérer, j'ai vraiment espéré sans vraiment y croire, retrouver des archives familiales. Et là, j'ai eu une chance assez extraordinaire. Ça a été beaucoup plus compliqué que pour Garance, parce que moi, j'ai quand même mis 3 mois. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais j'ai réussi à retrouver son arrière-petit-fils, qui vit actuellement en Bretagne, dans la maison achetée par son arrière-grand-père. Voilà, donc c'est une charmante petite chaumière. Marty est ici. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé. Et surtout, chose absolument extraordinaire, c'est la quantité de choses qu'il peut y avoir. Voilà, j'ai fini d'inventorier tout ça en avril. Donc je peux vous dire que la famille conserve près de 350 œuvres inédites, dont la vie, aquarelle, gouache, ce que vous voulez. Une quarantaine de lettres de Marty, dont une quinzaine date de la Première Guerre mondiale. Plus de 200 photographies et le double de négatifs sur verre. Donc je vous mets des exemples de ce qu'on peut trouver comme photo. Alors j'aime beaucoup celle-ci, voilà, je vous présente Marty à 7 mois, c'est tout de même peu ordinaire. Marty est avec sa famille, j'ai malheureusement pas le temps de toutes les commenter. Je vous ai mis celle-ci, parce que tout comme Martin et Bobette, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout de même, on sent que le visage délicat, assez long et régulier, les traits réguliers de son épouse ont pu influencer Marty. Et c'était en plus des amis d'enfance. Et pour ce qui est des lettres et de la correspondance, donc je vous disais, il y en a une quinzaine qui datent de la Première Guerre mondiale, mais la majorité sont plus anciennes. Elles datent à peu près de 1900-1903. Je vous en ai mis deux que je trouve absolument géniales, hein, parce qu'il s'amusait beaucoup, enfin, il illustrait ses lettres. Et elles sont très très intéressantes pour moi, car ce sont toutes des lettres écrites par Marty à un ami, Pierre Lièvre, qui est aussi un écrivain méconnu, mais écrivain tout de même. Et les deux jeunes gens ont des discussions très approfondies sur l'art et la littérature. Donc je vous ai mis cet extrait, c'est un, je trouve, des plus beaux extraits que je vous lis. Donc, au point de vue purement philosophique et rationnel, je ne peux trouver aucun raisonnement qui montre l'utilité de l'art, mais quelque chose, une voix intérieure me dit que l'art en soi, indépendamment de ses effets moraux, a une valeur absolue et que lorsque quelqu'un a en lui du talent, c'est comme un dépôt qu'il n'a pas le droit de sacrifier. Je crois que son devoir est de l'utiliser et d'en faire profiter les hommes. Voilà, je trouvais ça magnifique, il fallait que je vous le mette. Et ça en dit long aussi sur le caractère et les idées de Marty. Je n'ai malheureusement pas le temps de développer. Voilà, je vous mets ici 4 croquis au crayon. Il y en a 250, donc je ne pouvais pas évidemment tous vous les mettre. Il y en a qui sont plus ou moins aboutis. Il y a aussi des dessins de guerre. Et maintenant, je vais vous montrer mes pépites. Ce sont de vraies pépites. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir beaucoup. Ma première pépite, un journal de vacances écrit par Marty quand il avait 12 ans. Ce sont des lettres qu'il a rassemblées, des lettres qu'il a écrites à son frère aîné, Paul, et dans lesquelles il raconte ses vacances à Villiers-sur-Mer avec le reste de sa famille. Donc c'est très intéressant quand il s'est agi en Master 1 d'étudier l'enfance de Marty, qui, je vous l'assure, était très heureuse. Et là, eh bien, sur tous les dessins, toutes les œuvres qui ont pu être gardées par la famille, vous avez une vingtaine de dessins d'enfants. Donc c'est aussi c'est très émouvant, c'était vraiment très intéressant à étudier. Le plus ancien, il date de 1889, Marty a 7 ans. Et donc vous constatez qu'il avait déjà un certain goût pour le dessin et qu'il, franchement, il avait un certain talent. Donc vous voyez, vous voyez l'évolution tout de même, hein, entre 7 ans et 12 ans, c'est assez remarquable. Vous avez ensuite un album qui est très précieux. Il est très précieux parce qu'il a été cité dans l'ouvrage de 1930. Il s'agit d'un album qui n'a jamais été édité, qui n'est même pas achevé non plus, qui est très intéressant parce qu'il montre l'influence qu'a pu avoir un illustrateur très reconnu pour ses travaux d'illustration pour les enfants, Maurice Boutet de Montvel, si ça vous dit quelque chose. Donc très intéressant à étudier. Et là, c'est peut-être ma pépite préférée, un petit bijou pour moi. C'est un livre relié, totalement inédit. Et comment vous dire, c'est un livre qui a été relié et Marty a pris soin d'intégrer au moment de la relire des petites illustrations, des petites vignettes aquarellées entre les pages. Et donc c'est son premier livre illustré, il a 15 ans, et c'est un cadeau qu'il a fait à sa mère. Et donc c'est très intéressant d'étudier ce petit livre qui montre que déjà à 15 ans, il avait un certain talent d'illustrateur de mode. Enfin non, pas de mode, mais déjà un goût pour l'illustration, voilà. Et là, ça n'a rien à voir avec la mode, c'est tout de même intéressant pour moi, puisqu'il a, la famille a conservé des maquettes pour l'illustration de livres, et quand moi je vais devoir travailler sur l'illustration de livres, ce sera très intéressant à étudier. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire, malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire sur Marty, parce qu'il a vécu très longtemps, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Le fond, ce n'est qu'un petit aperçu de tout ce qu'il peut y avoir, et j'espère qu'à la fin de mon année de Master 2, eh bien, avec un peu de chance, j'arriverai à faire un peu mieux connaître cet artiste totalement méconnu, et qui mérite tout de même de figurer parmi les grands illustrateurs de la période Art déco, parmi Barbier, parmi le Pape. Voilà, et merci pour votre attention.
Alors en fait, moi j'ai une question. Il y a tellement de pistes dans ce que vous nous exposez. Est-ce que vous avez fait des choix? Vous allez en faire? Vous voulez tout étudier?
Voilà, c'est mon projet très ambitieux. Ouais. J'ai déjà commencé l'année dernière. Je me suis arrêtée à 1925 parce que je ne pouvais pas tout traiter. Mais c'est ça, exactement. Le but, c'est vraiment de tout dire, d'essayer de trouver un plan. Je construis toujours mon plan. Je ne ferai pas ma soutenance en septembre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que tout est intéressant et que même les dessins animés, il n'en a fait que deux dans sa vie, mais c'est très intéressant parce qu'il les a fait à une période donnée et ça a eu vraiment une réelle influence, ne serait-ce que pour le dessin animé français.
Donc en fait, il est inclassable.
Il est totalement inclassable. Mmh. Il est inclassable, tout à fait. Et puis ce qui est absolument extraordinaire, c'est que son style n'a jamais changé. Son dessin n'a jamais changé, contrairement à Martin, mm-hmm. qui a évolué, qui a un peu testé le cubisme. Martin n'a pas changé, c'est ça. Et il continue d'avoir du succès jusqu'à la fin de sa vie. Et il va s'arrêter parce qu'à la fin, il est trop âgé. Mais mm-hmm. je crois qu'il aurait pu continuer mm-hmm. plus longtemps s'il avait pu.
Ouais. Et est-ce que vous vous posez la même question que Garance ? Est-ce que est-ce qu'il est juste un illustrateur ou est-ce qu'il est aussi un créateur de mode ou pas forcément ?
Si, je vais un petit peu l'évoquer quand je vais traiter parce que je pense que je vais faire un plan thématique. Je n'ai pas d'autre solution, je pense, pour tout traiter. J'ai renoncé au plan chronologique hier, mais ça m'aurait bien plu. Mais effectivement, ça sera évoqué, surtout puisque quand j'ai lu votre thèse sur Lucien Vogel et Michel de Brunhoff, vous m'avez ouvert une très belle piste, puisque à un moment donné, vous expliquez que dans un article de Vue, vous citez cet article dans lequel on voit que Jeanne Lanvin, dans un modèle de 1934, s'est inspirée d'une robe imaginée par Marty en 1914. Et donc
Je me souviens d'être tombée dessus, mais bon, moi j'ai le fait Vue, donc j'avais inventorié Vue, mais c'était très étonnant, ouais, comment une couturière s'inspirait d'un dessin 10 ans avant de... Enfin, je ne sais pas de quelle date c'était, mais en tout cas, s'inspirait d'un dessin de, ouais, d'un illustrateur de mode.
Oui, tout à fait.
Et autre question concernant les archives, donc ça a été difficile de le trouver, mais est-ce que ça a été difficile de le convaincre que ça pouvait faire l'objet d'un mémoire ? Parce que lui, du coup, il n'avait jamais été approché dans une perspective comme ça.
Non, pas du tout. Et ça s'est très, très bien passé. Et j'ai vraiment beaucoup de chance. Pour trois raisons. Tout d'abord parce que Marty n'a eu qu'un fils, qui n'a eu qu'une fille, qui n'a eu qu'un fils. Donc pas de problème avec les héritiers.
Ouais, ça change déjà.
Voilà, les archives sont restées vraiment dans la même lignée, ça n'a pas bougé. Mm-hmm. L'arrière-petit-fils est vraiment attaché à l'histoire de sa famille et il n'a jamais pensé vendre, alors mm-hmm. qu'il y a des choses qui pourraient valoir, qui ont vraiment beaucoup de valeur. Donc il a tout gardé précieusement. Et il a été vraiment adorable. Il m'a accueilli. J'ai été en Bretagne. J'ai pu tout regarder. Il a été vraiment, vraiment adorable.
Et il pense pas en faire quelque chose ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va en faire de ses archives ?
Eh ben, c'est un sujet un peu délicat. Je pense que...
Je sais que c'est toujours délicat d'avoir ça.
C'est très délicat, exactement. Et pour l'instant, il compte vraiment les garder. Ça va rester dans la famille. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et ça va pas bouger, je pense. Sauf si vraiment...
Sauf si vous lui proposez, oui, quelqu'un, j'entendais un livre ou
une
exposition. C'est pas toujours le plus simple, mais...
Alors, je ne rêve pas trop. Enfin, j'essaie de rester tout de même très... Mais effectivement, ma directrice de mémoire, comme Jérémy Serment, m'ont dit que ce serait intéressant, à la fin de mon Master 2, d'aller voir les éditions Norma. Donc, il faut d'abord l'écrire, le mémoire.
Non, les éditions Norma, c'est une bonne idée. Il y a même d'autres... Mais c'est vrai que ils ont une tradition de publication sur ce genre de thème.
Non, mais il serait très content.
Non, et puis oui, c'est vrai qu'il faut que vous les... Enfin, ça serait un petit conseil, c'est à vous de les valoriser, quoi. Vous les avez trouvés, ça serait bien que vous puissiez être maîtresse d'œuvre sur ce projet. Si jamais vous pouvez faire un livre, c'est une bonne idée, ça laisse une belle trace. Et ça aussi, ça met un point final à un master où c'est de la recherche qui sera moins grand public, quoi. Donc c'est un beau parcours de recherche. Je trouve que c'est toujours... Vogel, j'avais eu des problèmes similaires d'identification d'archives, mais c'est vrai que ce que vous disiez sur le fait qu'il n'y a pas de conflit dans la famille, que ça a été en fait transmis directement, ça simplifie un peu la situation, en fait.
Tout à fait.
Ouais.
Ça a été vraiment une chance. Hein,
parce
que je sais bien qu'il y a plusieurs cas d'étudiants, effectivement, ils arrivent à retrouver les descendants. Et on ne veut pas communiquer, mmh. où il y a beaucoup de conditions. Ah non, moi, il me laisse, il m'a... Je me suis assise sur une chaise avec le bureau de Marty, ouais, parce qu'il a tout gardé. Il m'a laissé dans sa cave et puis voilà.
C'est bien, c'est rare, mais c'est bien. Il faut en profiter.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez une question de remarque ?
Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai juste une question, parce que vous en parlez vraiment avec passion. Et vous dites que vous y avez travaillé déjà depuis très longtemps. Pourquoi ce choix ? Enfin, moi, ça m'intrigue vraiment.
Ah, c'est vraiment... c'est parce que moi, je connais d'abord... J'ai découvert Marty avec l'illustration de livres. Pas par la mode. Et que ma mère collectionnait les livres illustrés de la période du début du XXe siècle. Et donc, je connais Marty parce qu'elle en avait un certain nombre de livres. Et que, voilà, je m'étais dit au départ... Et d'ailleurs, au départ, mon but, c'était de faire un Master 1 sur l'illustration de livres par Marty. Parce qu'il en a fait... Il a travaillé pendant 40 ans dessus. Il a fait 75 livres. Et donc, c'était ça l'objectif. Et puis, finalement, c'est la rencontre avec M. Tikian, donc l'arrière-petit-fils de Marty, qui a fait que j'étais obligée, avec tout ce que j'avais, je pouvais pas ne pas exploiter au maximum tout ce qu'il avait à m'offrir. Donc, du coup, ça a changé. Et voilà.
C'est moins qu'une question, c'est plutôt une remarque qui va concerner Marty, Martin, et finalement beaucoup d'illustrateurs qui ont été en lien avec la mode sur le début du XXe. Bon, eux sont plutôt des illustrateurs, mais sur la contamination et l'influence que ça peut avoir sur les maisons de mode, il faut toujours garder en tête qu'un créateur de mode tel qu'on l'entendait avant 14, c'est quelque chose de très différent. C'est un directeur d'une maison, qui va généralement acheter des dessins ou des projets à des gens qui lui apportent des dessins et des projets. Et si le dessin n'a pas été fourgué à Lanvin, on va le proposer chez Redfern très facilement, ou voir chez Doucet en faisant quelques ajustements, jusqu'à ce que ça passe. Certains dessinateurs sont dessinateurs maison, mais beaucoup travaillent finalement en freelance. Et dans ces conditions, il est très naturel que des illustrateurs puissent faire occasionnellement du dessin réellement de création de mode, voir que ça marche dans l'autre sens. On est dans un monde qui est extrêmement flottant dans les liens entre la mode et le dessin. Et ça c'est particulièrement vrai sur toute cette période entre 1900 et 1914. Et ça va rester vrai en grande partie sur les années 20.
Mais c'est exactement ça, et c'est absolument génial, parce que justement encore hier, je n'ai pas fini mes recherches, je travaille actuellement sur le pavillon Paquin, et c'est exactement ça. Donc Jeanne Paquin a découvert Marty parce qu'il était chroniqueur et illustrateur pour une revue Comédia illustrée. Elle l'a sollicité pour faire cette frise que vous voyez ici pour le décor, pour décorer ce pavillon. Et j'ai appris, parce que je ne connais pas encore très bien l'histoire de Jeanne Paquin, j'ai discuté avec Monsieur Dominique Sirot, qui m'expliquait qu'à la même période, si on regardait, j'ai pas encore fini, la collection de Jeanne Paquin en 1911, on reconnaîtrait des robes, des tenues imaginées par Marty pour cette frise. Donc c'est exactement ça, elle s'en serait servie.
Oui, effectivement, Dominique est vraiment la personne à consulter à ce niveau-là, vu qu'il a fait le bouquin sur Paquin. Mais pratiquement toutes les maisons bossaient ainsi, spécialement les très grosses à la Paquin, qui avait tellement de choses à gérer.
Ouais,
elle n'est pas une dessinatrice. Jeanne Paquin, là-bas, c'est un mannequin qui a énormément de goût, qui a épousé le financier de la maison, donc elle a besoin de dessinateurs.
Oui, c'est vrai. Et ce qu'on me disait d'ailleurs, Monsieur Sirot, c'est qu'elle était assez... C'était vraiment une précurseur en la matière, puisque à la même époque, d'après ce que je comprends, Paul Poiret était beaucoup plus hésitant à solliciter les artistes comme Marty et même Martin, qu'elle était vraiment... C'était la première à vraiment les solliciter et à utiliser leur travail pour imaginer des créations.
Elle avait aussi plus besoin à cause d'une maison beaucoup plus grosse à gérer et d'absence de compétences personnelles dans ce domaine-là. Elle en avait d'autres, et notamment une capacité d'organisation qui était déjà remarquable.
On va reprendre avec une communication sur les poches. Ariane Fento, que vous connaissez peut-être parce qu'elle était déjà venue intervenir au séminaire. On avait organisé une journée d'études ensemble sur les échanges franco-anglais dans la mode. Et elle va venir nous présenter le livre qu'elle a, enfin les recherches et le livre qui en a résulté sur les poches et qui vient de paraître et qui est le résultat d'une longue réflexion et surtout d'une longue quête iconographique. Donc on est ravis de voir le résultat et de t'entendre en parler. Merci beaucoup.
Merci. Donc, entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle, les femmes, au lieu d'avoir des poches intégrées à leurs vêtements, comme c'était le cas dans les vêtements masculins, portent sous leur robe, nouées autour de leur taille, une ou deux poches qui ressemblent à des sacs de forme oblongue au milieu du vestiaire féminin, que l'ouvrage donc, que j'ai coécrit avec Barbara Berman et qui vient de sortir il y a tout juste 3 semaines chez Yale University Press, donc en Angleterre, est consacré en proposant une lecture qui le replace dans l'histoire culturelle, sociale, mais aussi industrielle, économique et parfois politique des femmes au XVIIIe et XIXe siècle. Au carrefour des disciplines que sont l'histoire, l'anthropologie, l'archéologie, l'une des particularités méthodologiques de l'ouvrage est de faire de l'objet, les poches elles-mêmes, une de ses sources principales. Donc notre recherche, elle n'a pas été tant iconographique que matérielle. L'ouvrage fait suite à un projet de recherche qui a permis d'identifier, photographier et documenter plus de 390 poches se trouvant dans une trentaine de collections textiles britanniques à la fois publiques et privées. Ce large corpus matériel est interrogé de manière critique, non comme simple illustration d'un propos qui se baserait principalement sur d'autres sources, mais bien comme l'une de nos sources à part entière, au même titre que les autres sources plus traditionnelles qui sont évidemment aussi convoquées, telles que les archives privées ou marchandes, les inventaires, les sources judiciaires, comme les procès des pickpocket ou les sources iconographiques, et là je vous donne quelques exemples. Le livre s'interroge sur ce que l'existence de cet objet particulier et spécifiquement féminin nous dit d'un ensemble de questions, telles que le genre bien sûr, mais aussi le travail des femmes, leur rapport à la possession, à la consommation, à leur mobilité ou à l'intimité, à une époque où la poche reste souvent l'un des rares lieux dont elles contrôlent l'accès. Si l'équilibre entre nos différentes sources varie bien entendu en fonction des questions que nous posons et des problématiques explorées, dans chacun des chapitres, nous interrogeons les poches dans leur matérialité et nous intégrons les poches dans leur matérialité comme source. Donc aujourd'hui, je ne vais pas essayer de vous faire un résumé du livre. Je vais essayer de vous donner peut-être quelques éléments pour essayer de vous donner un aperçu du type de travail qu'on a pu faire dans cet ouvrage, en espérant vous donner envie de lire la suite. Bien que le réticule qui apparaît en 1800 soit promu à grand renfort d'articles et de gravures dans les magazines de mode, il n'arrive pas à détrôner l'obscure poche qui, humble, modeste, persiste. Accessoire de non-mode, on pourrait dire, elle est peu coûteuse, elle est faite de manière domestique, on ne la voit pas dans les gravures, elle est souvent faite avec des matériaux recyclés, peu chers. La poche a pourtant le pas sur un accessoire qu'on annonce comme nouveau, alors qu'il n'est pas vraiment, mais bon, et ce, malgré les efforts de la presse pour représenter la poche, elle, comme démodée, obsolète, dans de véritables philippiques anti-poche qui sont publiés dans les années 1800, entre les années 1800 et 1820. Une guerre rhétorique où s'affrontent les réticules et les poches, une nouvelle version, en somme, de la querelle des anciens et des modernes, une bataille d'Hernani de la poche. Il y a deux camps. Les pocketists et les anti-pocketists, les pro-poches et les anti. Et bien que ceux-ci s'attachent à faire des poches, donc des accessoires des vieilles dames chevrotantes et gâteuses, et du réticule à l'encontre de ça, l'emblème même de la jeunesse et de la modernité, la poche continue à être portée jusqu'à la toute fin du XIXe siècle, comme en témoignent les nombreuses poches datées, soit directement parce qu'elles portent une date, soit par l'utilisation qu'elles font de certaines techniques, depuis la machine à coudre jusqu'au bouton pression. Une fois que l'on prend le temps ensuite de regarder précisément, de regarder de près, On voit même que à l'apogée de la robe de mousseline qui est censée avoir enterré la poche demeure. Alors c'est le jeu spot the pocket ici, ici par exemple. Les robes en mousseline ont des ouvertures sur les côtés pour donner accès aux poches. Les poupées de cette époque avec des garde-robes ont des poches et des robes en mousseline. Et donc la poche, pendant tout ce temps, ne disparaît pas, elle se transforme, on la porte plus haut et on y accède de la même manière sur le côté de la robe. La poche ainsi bouscule la chronologie un peu axiomatique de l'histoire de la mode qui voudrait faire croire à une disparition de la poche avec l'arrivée de la ligne Empire, étant à faire une histoire finalement plus de la silhouette que des pratiques vestimentaires. La persistance de la poche, malgré la rivalité du réticule, puis de la poche intégrée, puis du sac à main, sa cohabitation même avec ses alternatives, montre que les pratiques vestimentaires sont en fait plus complexes que le récit lisse d'une succession bien régulée d'épisodes où un élément du vestiaire viendrait prendre le pas sur un autre avant d'être lui-même détrôné par un troisième, etc. Le tout mu par une sorte de tropisme inexorable vers la nouveauté. Donc, une des raisons de la persistance de cette poche qui n'arrive pas à mourir pendant 200 ans est sans doute la grande flexibilité. Je dis ça parce qu'en fait, on n'arrête pas d'annoncer la mort de la poche. Pendant 100 ans, on annonce la mort de la poche et la poche résiste. Et sans doute la grande flexibilité, la mobilité et la capacité de ces poches à accompagner les pratiques féminines. En 1754, lorsqu'une femme est attaquée dans les rues de Londres et que le voleur part avec sa paire de poches, il emporte avec lui « A small round tortoise-shell snuffbox, a London almanac in a black shagreen case, an ivory-carved toothpick case, a silver sliding pencil, a white cornelian seal, a tortoise-shell comb in a case, a silver thimble and bodkin, a bunch of keys, a red leather pocketbook, a green neat purse containing half a guinea, a ground piece of William and Mary, and about 5 shillings, with 2 glass-smelling bottles. » Et ça, c'est « among other things ». C'est comme ça que... Donc, cette liste de près de 15 accessoires de poche illustre, bien sûr, à la fois la capacité des poches, mais aussi l'ingéniosité de l'industrie du luxe et du demi-luxe qui se développe à ce moment-là en Grande-Bretagne, et la manière dont la révolution de la consommation investit les poches des femmes ou fait des poches des femmes aussi un terrain à conquérir, un endroit à remplir. À un moment, et on pourrait aussi faire une lecture sur l'expansion commerciale et coloniale de l'Angleterre quand on regarde les matériaux qui sont utilisés. À un moment où les femmes sont souvent accusées d'être responsables de l'orgie consumériste que s'est saisie de la Grande-Bretagne, tout un discours fleurit, faisant de l'immensité des poches féminines un symbole de l'excès de la période. Dans une critique du luxe, par exemple, le philosophe Adam Smith... Ah, excusez-moi, donc ça c'est un peu des exemples de ce qu'on trouve dans les poches, de ces petits gadgets. Le philosophe Adam Smith, par exemple, écrit « How many people ruin themselves by laying out money on trinkets of frivolous utility? All their pockets are stuffed with little conveniences, donc des petits gadgets. They contrive new pockets unknown in the clothes of other people in order to carry a greater number. » Donc on invente de nouvelles poches pour pouvoir porter de plus en plus de ces gadgets portatifs. Et j'ai mis un autre exemple, mais que je ne lirai pas. Il est vrai que les poches sont grandes. Parfois, elles sont immenses. Alors, j'ai fait une petite reproduction pour donner un exemple. Donc, c'est à peu près ça, la taille à peu près moyenne de poche. Je peux faire circuler si vous voulez. Donc, la taille moyenne, c'est environ 40 cm de profondeur, 30 cm de largeur, mais certaines sont beaucoup plus grandes. C'est notre poche, notre paire de poches la plus grande. Donc, elle fait 61 cm de long et 43,5 cm de large. Les sources policières témoignent des volumes étonnants qu'elles pouvaient contenir. Plusieurs dizaines, et là je dis en fait 70 mètres de tissu dans les poches de Sarah Gladman en 1806. 40 pommes de terre. En 1839, dans celle de Phoebe Morris, ou bien plus originale, deux canards, dans celle de Jane Griffiths en 1777. Donc j'imagine un dans chaque poche. Elle n'a pas réussi à prendre la fuite, enfin elle s'est fait rattraper, mais elle avait les canards dans les poches. La taille des poches, souvent un sujet à la fois de fantasme et d'angoisse, presque un trope propre à la rhétorique particulière des récits de procès. Il y a beaucoup de récits de procès qui sont faits dans les journaux à l'époque, où elles apparaissent comme insondables, profondes, chaotiques. Et là, je vous donne quelques termes qu'on trouve dans ces récits. Même si les poches sont de grande taille, ces commentaires, en fait, témoignent davantage de l'angoisse que suscitent chez les commentateurs, qui sont en général masculins, de cet espace qui échappe finalement quelque peu à leur contrôle. Invisible sous la jupe, les poches sont l'un des seuls espaces sous contrôle féminin, ou plus ou moins sous contrôle féminin. Même petite, la poche est la possibilité d'un espace à soi, un début d'intimité en quelque sorte. Lorsque Frances Wright meurt en 1888, dans des circonstances mystérieuses, une fouille est menée. Son mari alors apprend avec stupeur qu'elle portait sur elle, dans ses poches, la somme assez faramineuse de 17 livres en pièces d'or, ce qui est énorme, qu'elle avait soigneusement épinglée dans le coin avec 8 épingles, dans le coin de l'une de ses poches, sans que son mari n'en sache rien. Pas plus que son mari, nous ne savons comment elle avait eu accès à cet argent et ce qu'elle comptait en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que Frances avait su transformer un coin de sa poche en un espace privé, une sorte de chambre à soi en miniature. Nul besoin qu'une poche ne contienne un trésor pour que son contenu, du reste, soit riche de significations complexes. L'apparente humilité du contenu de la poche d'une femme attaquée en 1753, qui est un peu en contraste avec la description que je vous ai déjà faite. Alors cette fois-ci, j'ai traduit une clé de fer d'une valeur de 2 pence, un petit canif à tailler les plumes d'une valeur de 1 penny, un dé à coudre en cuivre d'une valeur de 1 demi-penny et trompeuse. Une clé pouvait être la garantie d'indépendance et de sécurité. Le canif tend à indiquer qu'elle maîtrise l'écrit, puisque c'est un canif à tailler les plumes. Tandis que le dé pouvait à la fois être le signe de ses qualités de femme d'intérieur, un moyen de gagner sa vie, ou incarner un lien sentimental, puisque le dé était souvent donné en gage d'affection. Les objets contenus dans les poches des femmes sont donc des indices d'autre chose que simplement de la pénurie ou de l'abondance. Ils fonctionnent comme autant de promesses, et la poche, alors, comme un espace où ses potentialités sont constamment réinventées, déployées et réalisées par leurs propriétaires. Là, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples, mais on voit vraiment ça dans les récits et les témoignages, comment les femmes gèrent ce qu'elles ont dans les poches pour déployer différentes possibilités que leur offrent les objets. La lecture des sources relève aussi comment les objets étaient organisés à l'intérieur des poches, avec souvent des stratégies pour séparer différents types d'objets, des pratiques d'emboîtement, parfois successifs, presque ritualisé, où un objet précieux, ou en tout cas qui a de la valeur pour sa propriétaire, est mis dans une bourse, qui est ensuite enveloppé dans un mouchoir, celui-ci même mis dans une tabatière, qui est mise à son tour dans la poche, avant que la poche soit parfois soit portée, soit mise sous l'oreiller de la nuit pour la protéger. Les poches elles-mêmes permettent cette organisation grâce à des... Vous n'avez pas eu l'image que vous auriez dû avoir. Des stratégies d'organisation qui sont matériellement rendues possibles par la poche. Donc, j'avais mis normalement des images de compartiments intérieurs, d'épingles qui sont utilisées pour séparer les différents objets dans les poches. Cette stratégie d'organisation vont au-delà d'une pure question utilitaire ou pragmatique et nous permettent finalement d'entrevoir aussi la manière dont les femmes organisaient les choses, ou organisaient leurs choses, et imaginaient ainsi leur rapport au monde, la poche devenant une sorte de microcosme signifiant contrôlé par la femme, une sorte de monde en miniature, monde portatif qu'elle organise. Les poches elles-mêmes parfois nous donnent à voir quelque chose du monde intime de leur propriétaire, telle cette poche, datant de 1851, réalisée par une dénommée Margaret Diaz, prisonnière à Glasgow, qu'il a offerte à la femme du gouverneur de la prison, Anne Stirling. Elle est brodée en cheveux, avec son nom et les mots « forget me not », donc « ne m'oublie pas ». La poche ainsi matérialise littéralement quelque chose de Margaret Diaz en mêlant une partie de son corps aux fibres mêmes de l'objet. Il y a aussi une mèche de cheveux à l'intérieur. Toutes les 392 poches que nous avons étudiées ne sont bien entendu pas toutes aussi singulières que celle-ci. La plupart sont sans décoration, sans nom, sans message lisible. Pourtant, même une poche apparemment sans intérêt, simple, qui n'offre rien à lire, commence à divulguer, un certain nombre de détails à partir du moment où on commence à y prêter attention, à essayer de le regarder de près. Chaque détail semble parcellaire, mais pris ensemble, ils permettent de construire une image plus nuancée et complexe que ne laissait penser l'apparente simplicité de la poche. Une initiale brodée, un point de couture, une tache, un nœud, un pli, une pièce, un rapiéçage, les marques d'usure ou de tension, les traces d'anciennes coutures, les salissures ou au contraire le blanc étincelant de certains textiles, les efforts visibles et lisibles pour réparer et faire durer, un numéro inscrit à l'encre, une marque de lingerie décousue, coupée ou remplacée. Tous ces petits détails, sur des objets qui semblent à première vue aussi sans importance, sont des traces historiques qui permettent de remettre en cause parfois des récits un peu trop lisses sur l'émergence de la consommation, par exemple, la mode, la révolution industrielle. Le petit bout de la lorgnette que constitue la poche comme objet historique est aussi comme objet matériel, porteur lui-même de toutes ces traces infimes, nous permettent de mieux comprendre le rapport des femmes à la mobilité, à l'intimité, la sociabilité, le travail ou, pour utiliser un terme anglais, leur agency, leur agentivité, la manière de pouvoir agir sur le monde. Mais ils nous permettent aussi de toucher du doigt des domaines sans archives, infrahistoriques, comme la transmission des savoir-faire d'aiguille, les gestes du faire, mais aussi ceux du porter et du préserver, et le rôle des femmes et leur travail en tant que gardiennes et gestionnaires des biens du foyer, tout un ensemble de savoirs et de pratiques incarnées, invisibles pour qui ne prête pas attention à ces traces infimes. Ainsi, le message de la poche de Margaret Diaz, « Forget me not », s'adresse aussi à nous autres historiens, si l'on pense, avec ce qui est mon cas, avec l'archéologue James Dietz, que ce sont précisément l'ensemble de ces petits fragments qui tissent l'étoffe de nos existences, et que c'est en les exhumant et en se prêtant à une lecture rapprochée de leurs moindres détails que l'on peut espérer saisir quelque chose des vies de ceux qui nous ont précédés.
Voilà. Merci pour votre exposé, c'était fort intéressant. Je voudrais juste savoir si vous pouvez préciser les archives d'où elles viennent, c'est-à-dire est-ce que c'est la mode française, la mode...
Alors, c'est anglais.
C'est tout l'Angleterre. Je n'ai pas entendu, peut-être vous l'avez dit au début.
En fait, j'arrête de le dire parce que pour moi, c'est tellement... Mais effectivement, vous aviez raison, c'est en Angleterre, moi, que j'ai travaillé.
D'accord.
Enfin, je l'ai dit très vite au début, mais...
Donc, il n'y a pas de comparaison avec ce que vous auriez...
Non.
Bon, vous n'avez pas encore fait ça.
Pas encore. Mais en fait, les poches en France, elles n'ont pas été beaucoup collectionnées. Beaucoup moins qu'en Angleterre.
Très bien. Et est-ce que vous avez fait un travail sur... le mouvement entre la poche intérieure qui est plus près de la peau, qui ne se voit pas, et la poche extérieure, la naissance de la poche extérieure.
Alors, en fait, on n'essaye pas d'expliquer la naissance et la mort. On essaye de comprendre ce que la poche permet quand elle existe et comment la forme particulière qu'a cette poche. Qui est bien sûr très suggestive d'un point de vue formel, et l'endroit où elle est portée, comment ça permet un certain nombre de pratiques, c'est plus ça qui nous intéresse, et donc les autres poches d'une autre forme avec d'autres associations ne permettent pas, plutôt qu'essayer de donner une raison à la vie et la mort. C'est une question qu'on nous pose souvent de pourquoi à ce moment-là ça arrive et pourquoi ça disparaît. Je pense que c'est une question qui est un peu... Enfin, moi, j'ai pas réussi à trouver vraiment de réponse à cette question.
Je voulais pas dire la mort, je voulais dire simplement qu'il y avait peut-être, en même, avec la transformation du vêtement, des fonctionnalités, la poche extérieure qui existe encore, la poche intérieure qui existe encore, la poche extérieure qui est créée, et selon le changement des modes, ces deux aspects déjà qui viennent à l'esprit immédiatement. Merci beaucoup.
J'ai peut-être raté l'explication, mais est-ce que tu as trouvé véritablement des preuves de cette structuration dans la poche? Est-ce qu'il reste des coutures
qui tu veux dire la structuration?
Mais tu as l'air de dire qu'on pouvait segmenter pour mettre les clés d'un côté, les choses.
Je l'ai créée, mais j'ai oublié de la mettre dans le chemin de ma présentation. Donc attendez, je vais essayer de vous la retrouver. En fait, il y a des compartiments à l'intérieur. Dans certaines poches, il y a des compartiments à l'intérieur des poches.
C'est des poches dans la poche ou
c'est des poches dans la poche.
Peut-être qu'il y a des poches d'où tu n'en as jamais eu.
Si.
Ah non, là, c'est pas ça. Attendez, regardez. Encore plus, là, comme ça.
Il y a aussi des poches schizophrènes.
Bon, c'est la cuisine interne. Hop. On ne peut pas zoomer là. Bon, on va faire comme ça. Bon, là, vous voyez quelques exemples, par exemple, de poches avec.
Un petit passé.
Dans celle-là, en fait, il y a trois compartiments. Il y a le compartiment principal, et puis, en fait, derrière, il y a deux compartiments. Là, en tout, il y en a deux. Pareil, là, il y en a trois. Des fois, il y en a quatre. Enfin, dans une poche, en tout cas, il y en a quatre. Okay. Voilà. Et ensuite, il y a aussi l'utilisation d'épingles pour séparer et créer des sortes de compartiments internes à l'intérieur de la poche et l'utilisation des contenants à l'intérieur de la poche, comme j'ai essayé d'expliquer, l'effet d'emboîtement. Donc, l'un des objets qui est le plus trouvé dans la poche, c'est d'autres boîtes, en fait, d'autres contenants. Et il y a cet effet de poupée russe qui est utilisé, qu'on voit vraiment à l'œuvre dans les stratégies de sécurité mises en place par les femmes à une époque où il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'endroit où on peut avoir on peut garder ces objets précieux, qu'ils soient de valeur sentimentale ou parce qu'ils ont une valeur économique. Donc on essaye de déployer des stratégies matérielles pour les protéger. Même si nous, on voit l'échec de ça souvent, puisque c'est quand elles ont perdu ce qu'elles avaient dans leur poche. Mais...
Alors, c'est plus une remarque en forme de boutade pour rebondir sur le titre que vous avez donné. La guerre de la poche existe encore.
La guerre de la poche existe encore.
Si on voit avec le prêt-à-porter féminin actuellement, où les poches cousues sont... Enfin, quand elles sont présentes, ne sont pas aussi importantes que les poches masculines. Mmh. Et donc, la question de déporter son intimité dans un sac, ailleurs que sur soi, et dans... Voilà. Mmh.
C'est intéressant parce qu'en fait, ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur ce sujet. Et en fait, au début, on me disait beaucoup « Ah bon, t'écris un livre sur les poches Ah ouais, mais tout un livre, t'es sûre Et en fait, je pense que le temps a joué pour moi, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait beaucoup plus résonance avec des sujets qui ont été dans l'actualité. Donc, il y a eu cet article l'année dernière sur la taille des poches des jeans et pourquoi les poches des jeans de femmes sont moins volumineuses que les poches des jeans des garçons et qu'on ne peut même pas mettre son iPhone 10 dedans. Avec un discours sur c'est pour l'industrie du sac, etc. Alors, ça, bon, moi, j'y crois pas trop à ça. Mais ensuite, il y a une politisation de la poche et du droit à la poche. Alors nous, on le voit en fait quand la poche commence à disparaître vraiment à la fin de notre période, donc au début du XXe siècle, et ça, au tournant enfin, entre le XIXe et le XXe siècle, où il y a aussi, ça fait écho bien sûr au mouvement des suffragettes, et il y a une collusion entre le droit de vote et le droit aux poches, parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a moins de poches comme ça, mais il n'y a pas encore, ou pas, de vraies poches qui les remplacent ou qui en remplacerait la fonction. Donc des fois, il y a une poche dans la robe, mais elle va être dissimulée sournoisement, nous disent les sources, et puis ensuite on le voit dans les vêtements, c'est-à-dire qu'elles vont être pas très pratiques, elles vont être dans the bustle, je sais pas comment on dit en français, le cul, enfin le faux cul, en bas de la jupe, il faut se contorsionner pour essayer d'accéder à sa poche, et donc les femmes se plaignent à ce moment-là de ne pas avoir de poche. Il y a un discours qui commence à arriver en disant mais et pourquoi on veut le droit de vote et on veut aussi des poches. Et quand les femmes ont le droit de vote en Angleterre, hein, elles ont le droit de vote avant la France, donc 1914, enfin, à ce moment-là, elles commencent à dire mais on a le droit de vote et on n'a pas de poche, hein, on n'a plus de poche. Et il y a une auteure qui se... Enfin, c'est une artiste qui s'appelle Gwen Raverett qui a laissé des mémoires et elle se souvient de son enfance. Et elle dit, voilà, je me souviens de mes poches et de tout ce que je pouvais mettre dans mes poches. Et we have suffrage, why can't we have pockets?
La petite question touchant au 20e. Après la guerre des poches, est-ce que vous avez pensé à ses descendantes qui sont les poches de guerre? Parce qu'en fait, il y a un phénomène assez curieux, que je connais mieux la mode française que la mode anglaise, c'est que aussi bien pendant la guerre de 14-18 que pendant la guerre de 39-45, on a vu réapparaître, sans doute parce que les femmes étaient plus sollicitées en termes de travail et de vie pratique, des systèmes de poches externes, bien distincte du vêtement, souvent relié à la ceinture. Alors les modèles qu'on a le plus en tête sont notamment cette modèle de Schiaparelli des collections de 39 et 40 créées par Monsieur René, avec carrément la ceinture, avec d'immenses poches qui reviennent sur le manteau, c'est-à-dire très bien coupées. Mais on a aussi de beaux exemples, à 1914, 15, 16, de poches externes rapportées par-dessus la jaquette, pas toujours amovibles, qui en fait sont les descendants directs des poches du 19e, parce que soumis à des contraintes de vie pratique, les femmes en reviennent à des poches et à des pays et qui ont besoin d'avoir une forte contenance et qui ne se cachent plus.
Alors on a trouvé effectivement un certain nombre de poches qui sont, alors il y a dans les descendants, on va dire modernes, des poches tout en restant au début du 20e siècle, il y a les poches de voyage. Donc c'est traveling pockets ou les railway pockets, les poches pour le train, et donc ça c'est des poches qui sont en matériaux très solides, souvent du cuir, bien sûr c'est des coutures machines, c'est carré à ce moment-là parce que ça utilise les possibilités plus de la couture machine de faire des coutures droites plutôt qu'incurvé, c'est pas super à la machine, avec aussi des systèmes de fermoirs. Et donc, c'est une poche qui est super sécure parce qu'on ne peut pas la couper parce que le matériel est très solide. Il y a des systèmes d'attache, on ne peut pas les détacher parce qu'un des problèmes de ces poches, c'est qu'elles sont nouées. Donc, on peut tirer dessus et se faire voler sa paire de poches. Donc, ces poches-là, c'est des poches c'est extra sécuritaire, mais c'est des poches qui sont du coup utilisées pour les objets dont on n'a pas vraiment besoin. C'est plus comme une banane de voyage, si vous voulez. Hein, c'est pour garder... et on a des articles qui disent, oui, pour partir en voyage, pour les objets précieux, mais dont vous n'avez pas besoin tout le temps, mettez-les in a traveling pocket. Donc, il y a ça. Et ensuite, effectivement, on a trouvé tout un ensemble de poches, en général blanches. Alors, je vais mettre trop de temps à vous retrouver la photo, mais je peux vous la retrouver après. Standardisées. Et là, on pense que c'est des poches d'uniforme. Peut-être, on se dit, de nurses, enfin de... excusez-moi, infirmières. voilà, mais je veux bien avoir des images.
Ah, si vous voulez, je peux essayer de retrouver ça dans les archives de trucs que j'ai vendus. Mais je pourrais vous en retrouver pas mal. Et c'est assez curieusement, ça réapparaît à chaque fois au moment des deux guerres mondiales. Mmh. Et certainement pour des raisons de vie pratique et de la poche bien apparente, qui est intégrée de manière au niveau mode aux vêtements, mais qui peut parfois en être séparée.
D'accord, merci.
Merci beaucoup, Ariane.